Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, l'invité d'Escale est Adama Dieng, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide. Avec son équipe, il a mis sur pied, après de longues consultations avec les leaders religieux du monde entier et de la plupart des obédiences, un plan d'action visant à prévenir l'incitation à la violence qui pourrait conduire à des atrocités criminelles. Un plan récemment lancé à New York en présence du secrétaire général Antonio Guterres, qui juge cruciaux la voix, l'autorité et le rôle d'exemple des chefs religieux. Adama Dieng, bonjour.
Bonjour.
Adama Dieng, donc vous êtes le conseiller spécial sur la prévention du génocide et on assiste à ce lancement d'un plan d'action pour les chefs religieux et les acteurs religieux en vue de prévenir l'incitation à la violence qui donc pourrait mener à des crimes et à des atrocités. D'abord, pourquoi un plan d'action de cette nature aujourd'hui? Pourquoi les Nations Unies et votre bureau sont-ils à la pointe et donc participent à ce lancement?
Ben, comme vous le savez, l'incitation à la violence qui cible des communautés ou des individus basés sur leur identité peut contribuer à préparer à la commission d'atrocités criminelles, et j'entends par atrocités criminelles le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et donc, c'est à la fois cette incitation à la violence, un signal, un avertissement, mais aussi un indicateur précoce du risque de commission de ces crimes. Dès lors, surveiller, prévenir et contrer l'incitation à la violence, particulièrement dans des sociétés qui sont divisées sur la base de l'identité ou aussi dans des situations où les tensions sont très élevées, eh bien, nous pensons que prévenir cette incitation est essentiellement un facteur de prévention et peut aider à créer l'harmonie au sein de ces sociétés.
Alors, est-ce qu'on part de quelque chose de concret déjà? Est-ce qu'il y a eu des propositions? Est-ce qu'il y a un brouillon qui a été fait de ce plan d'action?
Ce plan d'action est le résultat d'une série de rencontres. D'abord, il y a eu une première rencontre mondiale, si je puis dire, qui s'était tenue à Fès, capitale spirituelle du Maroc. Et nous avions fait venir des leaders religieux éminents, de toutes les religions d'ailleurs, au passage, y compris des minorités. Et c'est ce projet qui avait été adopté à Fès qui a été maintenant discuté dans les 5 régions du monde par des acteurs religieux, des leaders religieux. Et chaque région, bien entendu, a pu identifier des éléments spécifiques à son aire géographique. Et finalement, nous avons aidé ces leaders à obtenir maintenant ce qui est devenu le plan d'action global. Et ce plan d'action global, nous l'espérons, et c'est en tout cas le vœu du secrétaire général Antonio Guterres, qu'il soit appliqué au plan national, régional et international. Et c'est dans ce contexte que mon bureau a décidé, et avec l'appui du secrétaire général, a lancé ce plan. Et je me réjouis d'ailleurs de constater que la plus haute autorité religieuse, l'imam de la Mecque, va participer à nos travaux. Tout comme nous aurons l'archevêque de Canterbury qui a envoyé un très haut représentant, l'Église, bien entendu, avec le nonce apostolique. Nous espérons aussi que toutes les minorités religieuses qui ont été invitées, y compris par exemple les Baha'i, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, nous assistons malheureusement à la persécution encore de certaines minorités religieuses. Or, cela est tout simplement inacceptable, parce que d'ailleurs, ce plan d'action a pour fondement les droits de l'homme, la liberté. Et je rappelle souvent qu'il n'y a pas une seule religion qui prêche la violence et que Dieu est amour, Dieu est beauté, Dieu est justice et Dieu est liberté et Dieu est avant tout l'unité dans la diversité. Pour faire ressortir justement cette unicité de Dieu, Dieu lui-même a proclamé et a décidé la diversité. C'est pourquoi il n'y a ni couleur, ni langue, ni religion qui puisse nous séparer. Pour Dieu, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes nés libres et égaux. Et ce qui fait la différence d'ailleurs pour ceux qui sont connaisseurs, par exemple, du Coran, et on retrouve les mêmes langages. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus proche de Dieu. Et celui qui est le plus proche de Dieu, ce n'est pas celui qui va tous les matins à l'église. Ce n'est pas celui qui va tous les matins à la mosquée. C'est celui-là qui est amour, qui prêche la paix, l'harmonie. Parce qu'en dernière analyse, seul Dieu est juge. Et voilà pourquoi j'ai bon espoir qu'avec ce plan d'action, nous allons pouvoir, à travers le monde, regrouper les acteurs religieux pour les aider à travailler dans cette direction. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, de la réunion régionale à Amman, où nous avons pu identifier que les leaders religieux gagneraient dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à travailler étroitement avec les jeunes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est cette jeunesse qui maîtrise le mieux les nouveaux outils technologiques, le recours des social media, donc l'Internet et tout cela. Ce ne sont pas les imams qui seront derrière, mais c'est cette jeunesse. Il faut faire en sorte donc que cette jeunesse, qui est aujourd'hui aussi victime d'ailleurs de ces groupes tels que Daesh, ces monstres soi-disant islamiques, c'est cette jeunesse-là qu'il faut également préparer. Et plus important aussi, le rôle de la femme. Au cours de ce lancement, nous avons donné aussi la voix aux femmes leaders religieux. Parce qu'on a tendance à oublier. Je connais aujourd'hui, depuis qu'on a lancé ce processus, un grand nombre de femmes qui sont des leaders religieux. Et il faut aller dans ce sens. Et il faut tout simplement, comme le dira un des participants, cher Bentounes, qui est en train de promouvoir ce qu'on appelle le vivre ensemble, que nous puissions arriver à ce que demain, il n'y ait plus ni catholiques, ni juifs, ni musulmans, mais qu'il y ait tout simplement des hommes et des femmes qui vivent ensemble et en paix.
Je vous entends bien, c'est une démarche œcuménique, c'est une démarche régionale, 5 régions, un plan global. C'est très ambitieux tout ça, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas des religions, des obédiences qui sont un peu, pour l'instant, pas représentées ou sous-représentées ? Est-ce qu'il y a également des pays qui sont des pays sensibles ? Je pense au Burundi, je pense à l'Afrique, mais je pense à d'autres régions également qui ont des crises aujourd'hui. Et est-ce que tous ces pays, toutes ces régions du monde sont représentées ?
Je suis très préoccupé, bien sûr, par ce qui se passe au Burundi, mais je suis un homme optimiste. En paraphrasant le secrétaire général Guterres qui citait Monnier, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais je suis déterminé. Et c'est cette détermination qui m'a amené, par exemple, s'agissant du Burundi, à réunir les leaders religieux catholiques et protestants pendant 2 jours à Addis Abeba. Et ils ont discuté ensemble pour arriver à parler le même langage. Nous allons avoir prochainement une rencontre au Kenya, à nouveau, mais cette fois-ci aussi avec les leaders religieux du Sud-Soudan. Pourquoi ? Parce que j'estime que c'est par là que nous passerons. Parce que ces leaders religieux qui rencontrent leurs ouailles régulièrement vont pouvoir influencer. Même les chefs d'État, les premiers ministres sont des ouailles de ces leaders religieux. Et donc, ces derniers devraient pouvoir contribuer à faire passer le message de la prévention, de l'incitation à la violence qui pourrait déboucher sur des crimes aussi graves que les crimes contre l'humanité.
Vous parliez tout à l'heure de la lutte et vous parliez aussi de la mobilisation des jeunes, notamment au Moyen-Orient avec des plateformes, médias sociaux et autres. Est-ce que la lutte que vous entreprenez là, donc cette démarche de prévention, est à la hauteur aussi des moyens qui sont déjà déployés ? Vous parliez de Daesh. Aujourd'hui, on sait que la guerre des médias est enclenchée. On sait qu'ils ont des médias sociaux et des médias très puissants. Est-ce que vous pensez être de taille avec un tel plan d'action par rapport donc à ces initiatives terroristes et autres dérives extrémistes ?
Mais écoutez, j'ai fait participer à nos rencontres régionales des représentants de Google, Facebook, parce que tout simplement, la prochaine bataille qu'il faudra gagner, c'est justement cette bataille sur le terrain des médias sociaux. Et Daesh est pratiquement défait sur le plan militaire. Mais il faudra maintenant engager l'autre combat. Je rappelais récemment que l'expertise des éléments de Daesh au plan médiatique est quelque chose qui dépasse l'entendement. Je disais même que quand on voit les vidéos que Daesh a montées, ils auraient pu rivaliser avec Hollywood. Mais la seule différence, c'est que Hollywood, c'est de la fiction. Mais malheureusement, Daesh, c'est la réalité. Et il nous faut combattre justement ce mal. Et c'est un mal qui, malheureusement, qui a commencé dans certaines zones en temps de paix. Et c'est en temps de paix qu'on a vu ce message de haine spreader dans certains pays tels que le Nigeria avec Boko Haram. Donc si on arrive à stopper, à prévenir la dissémination du message de haine, on peut définitivement réduire le potentiel de commission d'atrocité.
L'ONU a été créée sur la base, et hélas, sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. On sait la Shoah, on sait qu'il y a eu déjà des massacres avant. D'autres personnes parlent déjà du génocide arménien et d'autres massacres qui ont eu lieu à cette époque-là. Depuis, hélas, l'ONU a existé. On parle du génocide cambodgien, on parle de Srebrenica, on parle du Rwanda, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'avec un tel plan aujourd'hui, on est mieux armé? Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir à tout prix éviter? Est-ce qu'on a une garantie aujourd'hui ou est-ce qu'on ne peut pas finalement diriger et mener l'utopie jusqu'à une telle affirmation?
Mais écoutez, l'existence de mon mandat est le résultat de l'échec de la communauté internationale face à ce qui s'est passé à Srebrenica, le génocide de Srebrenica, où 8000 musulmans, hommes et jeunes gens, ont été exterminés. Cet échec a également été matérialisé par l'extermination de près de 800 000 personnes simplement parce qu'elles étaient des Tutsis. Bien entendu, des Hutus modérés qui s'opposaient à ce génocide, tout comme des Tois modérés, ont aussi été tués pendant ce génocide des Tutsis. C'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, ce plan d'action vient en appui à mon mandat également, vient en appui à l'action que mènent les Nations Unies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité. Parce que nous n'oublions pas, il y a en même temps qu'on assiste à cette incitation à la violence, un vivier de criminels, du grand banditisme qui profite de ces situations. Si Daesh veut la publicité, il est évident que les groupes criminels qui sont à côté profitent des opérations de Daesh pour s'enrichir, pour s'en mettre plein les poches. Nous l'avons vu avec les flux de mouvements de population qui partent par exemple d'Afrique vers la Méditerranée et qui sont aujourd'hui l'objet de toutes sortes de trafics d'êtres humains, que ce soit la prostitution, que ce soit le trafic des organes humains. Et c'est pourquoi tout est lié. Tout est lié et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé et que les leaders religieux devraient aujourd'hui plus que jamais être en première ligne. Et je me réjouis de ce que le secrétaire général Guterres soutienne ce projet que j'ai initié. Et c'est pourquoi lui-même a rappelé que la prévention se trouve au cœur de son mandat. C'est 5 années à venir parce qu'il ne saurait y avoir de développement, il ne saurait y avoir de paix durable si on n'investit pas dans la prévention.
Adam Madiang, merci. Je rappelle donc que vous êtes conseiller spécial sur la prévention du génocide et vous nous parliez donc du lancement du plan d'action global pour les chefs religieux et les acteurs religieux en vue donc de prévenir les violences et toute forme de génocide. Merci.
Merci à vous.
Voilà, fin de ce magazine Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur internet les magazines mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.